Contrairement à une croyance répandue dans le monde arabe et chez beaucoup de journalistes, les États-Unis ne sont pas un grand maître chanteur qui manipule à sa guise les pays avec lesquels il est en affaire. Même les gouvernements qui bénéficient de notre aide militaire et économique pensent avant tout à leur propre survie, et le régime de Moubarak ne dérogeait pas à la règle. Lorsque j'ai exprimé publiquement ma conviction qu'il était temps pour l'Égypte d'entamer sa transition vers un nouveau régime, Moubarak a continué les provocations, cherchant à voir jusqu'où il pourrait aller dans l'intimidation des manifestants. Le lendemain, sans que l'armée bouge le petit doigt, des partisans du président ont déferlé sur la place Tahrir pour s'en prendre aux manifestants. Certains montaient sur des chameaux ou des chevaux et armés de fouets et de gourdins, d'autres lançant des pierres et des bombes incendiaires depuis les toits alentours. Ils ont fait 3 morts et 600 blessés. Plus de 50 journalistes et défenseurs des droits fondamentaux ont été jetés en prison, où ils sont restés plusieurs jours. Les violences se sont poursuivies le lendemain, assorties d'une importante contre-manifestation organisée par le gouvernement. Les forces loyalistes ont même commencé à malmener des journalistes étrangers qu'elles accusaient d'encourager l'opposition. Pour moi, le plus grand défi durant ces journées de tension était de m'assurer que mon gouvernement continue à s'exprimer d'une même voix. Le message de la Maison-Blanche était clair. Lorsque la presse demandait à Gibbs ce que je voulais dire par « la transition en Égypte doit commencer dès aujourd'hui », il répondait « dès aujourd'hui, ça signifie hier ». Nous avons aussi obtenu de nos alliés européens une déclaration conjointe reprenant les termes de la mienne. Mais à peu près au même moment, alors qu'elle était interviewée dans le cadre de la conférence de Munich sur la sécurité, Hillary a expliqué en long et en large qu'une transition rapide serait dangereuse pour l'Égypte. Lors de cette même conférence, Frank Wisner, qui n'avait plus aucun rôle officiel et disait donc s'exprimer en tant que simple citoyen, a émis l'opinion que Moubarak devrait rester en poste le temps de la transition. En entendant cela, j'ai demandé à Katie d'appeler ma secrétaire d'État. Quand j'ai eu Hillary au bout du fil, je n'ai pas caché mon mécontentement. Je sais parfaitement ce qui peut se passer si on prend nos distances avec Moubarak, mais j'ai pris une décision et je ne veux pas qu'on multiplie les messages contradictoires. Sans lui laisser le temps de répondre, j'ai ajouté « et dis à Wisner que je me fous de savoir en quelle qualité il s'exprime. Il la boucle. » Même si mes rapports avec un establishment sécuritaire toujours gêné par la perspective d'une Égypte sans Moubarak m'agaçaient parfois, ce même establishment, et en premier lieu le Pentagone et la communauté du renseignement, avait probablement bien plus de poids sur la suite des événements que n'importe quelle noble déclaration de la Maison-Blanche. Une ou deux fois par jour, Gates, Mullen, Panetta, Brennan et d'autres encore s'entretenaient discrètement avec le commandement militaire et les services de renseignement pour bien leur faire comprendre que, si l'armée cautionnait les violences contre les manifestants, cela aurait des conséquences graves sur les relations entre les États-Unis et l'Égypte. Par ces contacts directs, nous laissions entendre que la coopération entre nos deux pays et l'assistance qui l'accompagnait ne dépendait pas de la présence de Moubarak au sommet de l'État et incitions les généraux et les chefs du renseignement égyptien à se demander où se trouvait réellement l'intérêt de leurs institutions. Notre communication a paru fonctionner car le soir du 3 février, les troupes égyptiennes se sont interposées entre les forces pro-Moubarak et les manifestants. Les arrestations de journalistes et de militants ont commencé à ralentir. Encouragés par le changement d'attitude de l'armée, de nouveaux manifestants sont venus grossir pacifiquement les rangs des occupants de la place. Moubarak allait encore s'accrocher une semaine en jurant de ne pas céder aux pressions étrangères. Mais le 11 février, 2 semaines et demie après la première manifestation sur la place Tahrir, le vice-président Souleymane, visiblement éreinté, a annoncé à la télévision que le président Moubarak avait quitté son poste et qu'un gouvernement intérimaire sous l'égide du Conseil supérieur des forces armées allait préparer la tenue de nouvelles élections. Depuis la Maison-Blanche, nous avons vu sur CNN la foule égyptienne exulter. Le staff a laissé éclater sa joie. Samantha m'a envoyé un message pour me dire combien elle était fière de faire partie de ce gouvernement. Tandis que nous traversions la colonnade pour aller nous adresser à la presse, Ben n'arrivait plus à arrêter de sourire. « C'est génial, disait-il, de faire partie de l'histoire comme ça. » Katie a imprimé et déposé sur mon bureau une photo illustrant une dépêche. On y voyait un groupe de jeunes manifestants qui brandissaient une pancarte sur laquelle était écrit « Yes, we can ». J'étais soulagé et prudemment optimiste. Je pensais parfois à Moubarak, que j'avais reçu à peine quelques mois plus tôt dans l'ancienne salle à manger familiale. Au lieu de fuir le pays, il s'était apparemment installé dans sa résidence privée de Sharm el-Sheikh. Je l'imaginais assis dans un salon opulent, le visage éclairé par une lumière diaphane, seul avec ses pensées. Je savais que, malgré cette atmosphère de fête et d'espoir, La transition égyptienne n'était que le début d'un long combat pour l'âme du monde arabe, dont l'issue était tout sauf certaine. Je me souvenais de ma conversation avec Mohamed Ben Zayed, prince héritier d'Abu Dhabi et dirigeant de fait des Émirats Arabes Unis, tout de suite après que j'avais appelé Moubarak à démissionner. Jeune, raffiné, proche des Saoudiens et peut-être le dirigeant le plus habile du Golfe, Ben Zayed m'avait expliqué sans détour comment mon message avait été perçu dans la région. Il m'avait dit que les déclarations des États-Unis au sujet de l'Égypte étaient très suivies dans le Golfe et causaient une inquiétude croissante. Qu'arriverait-il si des manifestations éclataient au Bahreïn pour réclamer l'abdication du roi Hamad? Produirions-nous le même type de déclaration? Je lui avais répondu que j'espérais pouvoir travailler avec lui et les autres pour éviter de devoir choisir entre d'un côté les frères musulmans et de l'autre des affrontements entre peuple et gouvernement. « Votre message n'a pas eu d'effet sur Moubarak, mais il en a eu un sur la région », m'a dit Ben Zayed. Il a laissé entendre que si l'Égypte s'effondrait et si les frères musulmans s'engouffraient dans la brèche, 8 autres dirigeants arabes tomberaient à leur tour, ce qui expliquait qu'ils soient aussi critiques vis-à-vis de ma position. « Cela montre, a-t-il conclu, que les États-Unis ne sont pas un partenaire fiable à long terme. » Sa voix était calme et froide. Je me suis rendu compte qu'il s'agissait moins d'une demande d'assistance que d'un avertissement. Tant pis pour Moubarak, l'ordre ancien n'avait pas l'intention de se rendre sans combattre. Dans le sillage de la démission du président égyptien, les manifestations anti-gouvernementales ont gagné en ampleur et en intensité dans les autres pays, où la possibilité du changement se révélait de plus en plus crédible. Quelques régimes sont parvenus à faire au moins une concession symbolique aux manifestants tout en évitant les révoltes et les exactions. L'Algérie a levé la loi d'exception en vigueur depuis 19 ans, le roi du Maroc a engagé des réformes constitutionnelles augmentant modestement les pouvoirs du Parlement élu, et le monarque de Jordanie n'a pas tardé à l'imiter. Mais pour beaucoup de dirigeants arabes, la grande leçon à tirer des événements égyptiens était qu'il fallait écraser systématiquement et sans pitié toutes les manifestations. En employant toute la violence nécessaire, et tant pis si la communauté internationale y trouvait hardir. Parmi ces pays, c'est peut-être en Syrie et au Bahreïn que les violences ont été les plus intenses. Dans les deux cas, les divisions religieuses étaient profondes et une minorité privilégiée régnait sur une large majorité qui l'acceptait mal. En mars 2011, l'arrestation et la torture de 15 écoliers qui avaient peint des graffitis anti-gouvernementaux sur les murs de leur ville ont déclenché au sein de la population majoritairement sunnite des protestations contre le régime chiite alaouite de Bachar el-Assad. Les gaz lacrymogènes, les canons à eau, les matraques et les arrestations collectives ne parvenant pas à étouffer ces manifestations, les forces de sécurité d'Assad ont alors lancé de véritables opérations militaires dans plusieurs villes, avec tirs à balles réelles, chars d'assaut et perquisitions. Pendant ce temps, et comme l'avait prédit Ben Zayed, à Manama, capitale de la petite nation insulaire du Bahreïn, des manifestations colossales et principalement chiites avaient lieu. Et le roi Hamad Ben Issa al-Khalifa y répondait par la force, au prix de dizaines de morts et de centaines de blessés. Voyant que ces violences ne faisaient qu'alimenter les manifestations, Hamad, aux abois, a franchi un pas inédit en demandant aux armées saoudiennes et émiraties de l'aider à contenir sa propre population. Mes équipes et moi avons passé des heures à nous creuser les méninges pour trouver comment changer le cours des événements en Syrie et au Bahreïn. Hélas, nos options étaient limitées. La Syrie était un adversaire de longue date des États-Unis, un allié historique de la Russie et de l'Iran, et un soutien du Hezbollah. Sans influence économique, militaire et diplomatique comparable à celle que nous avions en Égypte, notre condamnation officielle du régime n'a pas eu beaucoup d'effet. Il en irait de même par la suite pour notre embargo, et Assad pouvait compter sur la Russie pour imposer son veto à toutes nos tentatives de faire approuver des sanctions par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans le cas du Bahreïn, nous avions le problème inverse. C'était un allié de longue date qui hébergeait la 5e flotte des États-Unis. Cette relation nous autorisait à faire pression en privé sur Hamad et ses ministres afin qu'ils contentent au moins certaines demandes populaires et mettent un frein aux violences policières. Mais aux yeux de la classe dirigeante du pays, ces manifestants étaient des ennemis sous influence iranienne qu'il fallait réprimer. Le régime allait nous forcer la main, en accord avec les Saoudiens et les Émiratis, et nous savions pertinemment que, une fois dos au mur, nous ne pourrions pas nous permettre de fragiliser notre position au Moyen-Orient en nous aliénant 3 pays du Golfe. En 2011, personne ne remettait en cause notre influence limitée en Syrie. Cela viendrait plus tard. Mais malgré nos déclarations condamnant la violence au Bahreïn et nos efforts pour ouvrir un dialogue entre le gouvernement et les leaders de l'opposition chiite modérée, le fait que nous ne coupions pas les ponts avec le roi Hamad a été fortement critiqué, surtout en regard de notre attitude face à Moubarak. Il m'était impossible d'expliquer notre incohérence de manière élégante, sauf en admettant que le monde était un vrai sac de nœuds, que dans la conduite de ma politique étrangère, j'étais constamment amené à mettre en balance des intérêts contraires, des intérêts façonnés par les choix des gouvernements précédents et les contingences du moment, et que même si je n'arrivais pas toujours à faire prévaloir notre souci des droits fondamentaux, cela ne m'empêchait pas d'essayer de faire tout ce que je pouvais, chaque fois que je le pouvais, pour promouvoir ce que j'estimais être nos valeurs les plus hautes. Mais que se passerait-il si un gouvernement commençait à massacrer ses citoyens par milliers, alors que les États-Unis avaient le pouvoir de l'en empêcher? Depuis 42 ans, Muammar Kadhafi dirigeait la Libye avec une cruauté qui confinait à la folie, même selon les critères de ses collègues dictateurs. Porté à la flamboyance, aux diatribes incohérentes et aux comportements extravagants, en 2009, en amont de l'Assemblée générale de l'ONU, il avait demandé l'autorisation de faire installer une immense tente bédouine en plein Central Park pour lui et sa suite. Il s'était néanmoins révélé d'une efficacité redoutable pour terrasser l'opposition dans son pays, utilisant la police secrète, les forces de sécurité et plusieurs milices financées par l'État pour emprisonner, torturer et assassiner toutes les voix qui osaient s'élever contre lui. Pendant les années 1980, son gouvernement avait en outre été l'un des principaux parrains étatiques du terrorisme mondial, contribuant à des attentats meurtriers comme celui de Lockerbie en 1988, lors duquel une bombe avait explosé dans le vol 103 de la Paname, causant la mort de ressortissants de 21 pays, dont 189 Américains. Depuis quelque temps, Kadhafi tentait de se parer des habits de la respectabilité en cessant de financer le terrorisme international et en abandonnant son programme nucléaire naissant. En conséquence de quoi, les pays occidentaux, dont les États-Unis, avaient repris les relations diplomatiques avec son régime. Mais à l'intérieur des frontières libyennes, rien n'avait changé. Moins d'une semaine après la démission de Moubarak en Égypte, les forces de sécurité de Kadhafi avaient ouvert le feu sur un groupe de civils protestant contre l'arrestation d'un avocat. En quelques jours, le mouvement social s'était répandu et plus d'une centaine de personnes avaient été tuées. Une semaine plus tard, le pays était en situation de rébellion ouverte et les forces antigouvernementales prenaient le contrôle de Benghazi, la deuxième ville du pays. Des diplomates libyens et d'anciens loyalistes, dont l'ambassadeur du pays auprès de l'ONU, ont commencé à faire défection en appelant la communauté internationale à venir en aide au peuple libyen. Accusant ses adversaires d'être des faux-nés d'Al-Qaïda, Kadhafi a alors entamé une campagne de terreur en déclarant « tout va brûler ». Début mars, le bilan s'élevait déjà à un millier de victimes. Horrifiés par ce carnage, nous avons rapidement tout mis en œuvre, hormis le recours à l'armée, pour arrêter Kadhafi. Je l'ai invité à se retirer du pouvoir, au motif qu'il n'avait plus aucune légitimité. Nous avons instauré des sanctions économiques, gelé des milliards de dollars en capital appartenant à sa famille et à lui, et au Conseil de sécurité de l'ONU, mis la Libye sous embargo et porté l'affaire devant la Cour pénale internationale afin que Kadhafi et d'autres soient jugés pour crimes contre l'humanité. Mais il persistait. Selon les prévisions de nos analystes, si ses forces atteignaient Benghazi, elles risquaient de faire des milliers de morts. À peu près au même moment, des ONG et quelques journalistes se sont fait entendre, rapidement rejoints par le Congrès et l'ensemble de la presse, pour exiger que les États-Unis interviennent militairement contre Kadhafi. Par certains aspects, j'y voyais un progrès moral. Traditionnellement, l'idée d'envoyer nos troupes pour empêcher un gouvernement de tuer son peuple aurait dû être inaudible, parce que les violences étatiques de ce type étaient très courantes, parce que les décideurs américains ne jugeaient pas que la mort de Cambodgiens, d'Argentins ou d'Ougandais innocents ait quoi que ce soit à voir avec nos intérêts, parce que les auteurs étaient souvent nos alliés pendant la guerre froide. Cela comprenait le coup d'État prétendument soutenu par la CIA contre le gouvernement communiste indonésien en 1965, 2 ans avant que ma mère et moi nous y installions, qui avait fini dans le sang et causé entre 500 000 et 1 million de morts. Mais dans les années 1990, alors que ces crimes commençaient à être couverts en temps réel par la presse internationale et que les États-Unis devenaient l'unique superpuissance au monde, un réexamen de cette doctrine d'inaction a conduit à l'intervention réussie des États-Unis et de l'OTAN en Bosnie. Nous avions désormais une obligation effective de prévenir les atrocités sur tous les continents. C'était tout le sujet du livre de Samantha et la raison pour laquelle je l'avais fait entrer à la Maison Blanche. Pour autant, et malgré mon instinct qui me poussait à sauver les innocents menacés par les tyrans, J'hésitais à ordonner une action militaire en Libye, pour la même raison qui m'avait poussé à refuser la suggestion de Samantha d'inclure dans mon discours du prix Nobel un appel explicite à la responsabilité de protéger les civils contre leur gouvernement. Quelle serait la limite de cette obligation d'ingérence? Et quels en seraient les paramètres? Combien de morts faudrait-il et combien de personnes en danger pour déclencher une réponse militaire des États-Unis? Pourquoi en Libye et pas au Congo, par exemple, où un enchaînement de conflits avait coûté la vie à des millions de civils? Devrions-nous intervenir uniquement dans les cas où les pertes américaines seraient nulles? Bill Clinton avait cru les risques limités en 1993, lorsque, dans le cadre de notre opération de maintien de la paix en Somalie, il avait envoyé les forces spéciales capturer les lieutenants d'un chef de guerre. Entre le 3 et le 4 octobre 1993, la bataille de Mogadiscio, aussi surnommée « Chute du Faucon Noir », avait fait 18 morts et 73 blessés parmi les soldats américains. La vérité est que la guerre n'est jamais propre et entraîne toujours des conséquences imprévues, même lorsqu'elle est menée pour une cause juste et contre des pays apparemment peu puissants. Dans le cas de la Libye, les partisans d'une intervention américaine avaient tenté d'occulter cette réalité en se raccrochant à l'idée d'une zone d'exclusion aérienne pour maintenir au sol les appareils du régime et ainsi empêcher les bombardements, mesure présentée comme un moyen de sauver le peuple libyen sans risque et sans bavure. Question type des correspondants à la Maison-Blanche durant cette période, combien est-ce qu'il va encore falloir de morts pour que nous passions à l'action? Ce qu'ils oubliaient de prendre en compte, c'était que, pour instaurer une zone d'exclusion dans l'espace aérien libyen, nous allions d'abord devoir tirer des missiles sur Tripoli afin de détruire les défenses aériennes du régime, un acte de guerre incontestable contre un pays qui ne représentait aucune menace pour nous. Et en plus de cela, rien ne nous assurait qu'une zone d'exclusion aérienne aurait un quelconque effet dans la mesure où Kadhafi se servait de ses troupes terrestres et non de ses avions pour attaquer les places fortes de la rébellion. Par ailleurs, nous étions toujours engagés jusqu'au cou dans les guerres d'Irak et d'Afghanistan. Je venais aussi d'ordonner l'envoi de troupes dans le Pacifique pour aider les Japonais à maîtriser le pire accident nucléaire depuis Tchernobyl, provoqué par un tsunami qui avait rasé la ville de Fukushima. Nous redoutions sérieusement que les retombées radioactives atteignent la côte ouest. Si l'on ajoute à cela le fait que je continuais à me débattre avec une économie qui commençait tout juste à repartir et un congrès républicain qui avait juré de détricoter tout ce que mon gouvernement avait accompli en 2 ans, on comprend aisément que l'idée de partir en guerre dans un pays lointain sans réelle importance stratégique pour les États-Unis me semblait tout sauf prudente. Et je n'étais pas le seul à le penser. Bill Daley, qui deviendrait mon directeur de cabinet en janvier, ne comprenait pas comment quiconque pouvait y songer sérieusement. « Je suis peut-être à côté de la plaque, monsieur le Président », m'a-t-il dit pendant une de nos réunions du soir, « mais je n'ai pas l'impression qu'on se soit fait écraser à la mi-mandat parce que les gens trouvent que vous n'en faites pas assez au Moyen-Orient. 9 personnes sur 10 ne sont pas fichues de situer la Libye sur une carte. » Et pourtant, plus les journaux rapportaient que les hôpitaux se remplissaient de blessés et que des jeunes étaient exécutés dans les rues sans autre forme de procès, plus l'opinion mondiale réclamait une intervention. À la surprise de beaucoup, la Ligue arabe s'est prononcée en faveur d'une action internationale en Libye, signe que les violences avaient atteint une gravité extrême, mais aussi que le comportement erratique de l'homme fort du régime et son habitude de se mêler des affaires de ses voisins l'avaient isolé des autres dirigeants arabes. Ce vote pouvait aussi être, pour les pays de la région, une manière pratique de détourner l'attention des violations des droits fondamentaux qu'eux-mêmes commettaient, puisque des États tels que la Syrie et le Bahreïn demeuraient des membres estimés de la Ligue. Pendant ce temps, Nicolas Sarkozy, durement critiqué en France pour avoir soutenu jusqu'au bout le régime de Ben Ali en Tunisie, a soudainement décidé d'embrasser la cause du peuple libyen. Main dans la main avec David Cameron, il a annoncé son intention de proposer sur le champ une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU pour autoriser une coalition internationale à établir une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Libye, résolution sur laquelle nous allions devoir nous positionner. Le 15 mars, j'ai donc réuni mon équipe de sécurité nationale. Nous avons débuté par un briefing sur les avancées de Kadhafi. Les troupes libyennes, lourdement armées, s'apprêtaient à prendre une ville en périphérie de Benghazi, ce qui leur permettrait de couper l'approvisionnement des 600 000 habitants de Benghazi en eau, en nourriture et en électricité. Kadhafi promettait de purger la Libye une maison après l'autre, une famille après l'autre, une rue après l'autre, une personne après l'autre. J'ai demandé à Mike Mullen ce que nous pourrions y changer avec une zone d'exclusion aérienne. « Pas grand-chose », m'a-t-il répondu, en me confirmant que, comme Kadhafi utilisait presque exclusivement des troupes terrestres, le seul moyen d'empêcher un assaut sur Benghazi était de les cibler directement avec des frappes aériennes. « Si je comprends bien, ai-je dit, On nous demande de participer à une opération qui donnera l'impression que tout le monde fait quelque chose, mais qui ne sauvera pas Benghazi. J'ai alors fait un tour de table pour écouter les préconisations de chacun. Gates et Mullen étaient fermement opposés à toute intervention militaire américaine et insistaient sur la pression que l'Irak et l'Afghanistan exerçaient déjà sur nos troupes. Ils étaient aussi convaincus, à raison d'après moi, que malgré les discours de Sarkozy et de Cameron, l'armée américaine finirait par devoir assumer le plus gros de l'opération. Joe estimait que c'était une folie de se lancer dans une guerre supplémentaire, et Bill ne comprenait toujours pas comment nous pouvions encore nous poser la question. Et puis, l'un après l'autre, les partisans de l'intervention ont avancé leurs arguments. Au téléphone depuis une réunion du G8, Hillary nous a dit avoir été très impressionnée par sa rencontre avec le leader de l'opposition libyenne. Malgré l'approche réaliste qu'elle avait prônée en Égypte, ou peut-être pour cette raison même, elle approuvait à présent notre participation à une coalition internationale. Depuis nos bureaux des Nations Unies à New York, Susan Rice nous a dit que la situation lui rappelait le génocide rwandais de 1994. À cette époque, sous Bill Clinton, elle faisait partie du Conseil de sécurité nationale, et notre inaction continuait à la hanter. Si une opération relativement modeste permettait de sauver des vies, alors nous devions y aller. Mais Susan suggérait tout de même que, au lieu de voter la zone d'exclusion aérienne, nous présentions notre propre résolution et demandions un mandat élargi pour entreprendre toutes les actions nécessaires à la protection des civils contre les forces de Kadhafi. Certains jeunes conseillers redoutaient qu'une intervention militaire contre la Libye ait pour effet pervers de convaincre des pays comme l'Iran qu'ils avaient absolument besoin d'armes nucléaires pour dissuader une future offensive américaine. Néanmoins, comme dans le cas de l'Égypte, Ben et Tony Blinken considéraient que nous avions la responsabilité de soutenir les forces réclamant un changement démocratique au Moyen-Orient, surtout si les pays arabes et nos plus proches alliés étaient prêts à agir à nos côtés. Et même si Samantha est restée exceptionnellement clinique en présentant une projection des pertes humaines dans le camp des rebelles faute d'intervention de notre part, je savais qu'elle était en contact direct et quotidien avec des Libyens qui imploraient notre aide. Je n'ai pratiquement pas eu besoin de lui demander ce qu'elle en pensait. J'ai regardé ma montre. J'allais devoir me rendre au dîner annuel avec les commandants des forces combattantes et leurs épouses dans le salon bleu du bâtiment historique. « Très bien, » ai-je dit. « Je ne suis pas encore prêt à prendre ma décision. Mais après ce que je viens d'entendre, je sais qu'il y a une chose qu'on ne va pas faire. Participer à l'instauration d'une zone d'exclusion aérienne foireuse qui ne nous permettra pas d'atteindre nos objectifs. » J'ai dit à tout le monde que nous nous retrouverions dans quelques heures et que je comptais sur eux pour me présenter des plans d'intervention réalistes assorti d'une analyse des coûts, des ressources humaines nécessaires et des risques encourus. Soit on fait les choses bien, et je conclus, soit on arrête de se raconter qu'on veut sauver Benghazi juste pour se donner bonne conscience. Lorsque je suis entré dans le salon bleu, Michel et nos invités étaient déjà rassemblés. Nous avons pris des photos avec tous les couples, échangé des nouvelles de nos enfants et plaisanté à propos de nos parties de golf. À table, j'étais assis à côté d'un jeune marine et de sa compagne. Artificier en Afghanistan, il avait perdu les deux jambes en marchant sur un engin explosif artisanal. Il m'a raconté qu'il n'était pas encore tout à fait habitué à ses prothèses, mais il paraissait avoir bon moral et son uniforme le mettait en valeur. J'ai reconnu sur le visage de sa femme le mélange de fierté, de détermination et d'angoisse refoulée que j'avais si souvent vu lors de mes visites aux familles de militaires durant les deux années écoulées. Pendant ce temps, mon cerveau turbinait, calculait, réfléchissait à la décision que j'allais devoir prendre dès que Buddy, Vaughn et les autres majordomes auraient débarrassé les assiettes à dessert. Les arguments de Mullen et de Gates étaient convaincants. J'avais déjà envoyé au front des milliers de jeunes gens, comme le Marine assis près de moi, et quoi que pensent celles et ceux qui n'allaient pas sur le terrain, rien ne nous promettait qu'une nouvelle guerre ne causerait pas d'autres blessures semblables, sinon pire. J'étais agacé de m'être fait coincer par Sarkozy et Cameron, qui cherchaient en partie à arranger leur image dans leur pays, et je n'éprouvais que du mépris envers l'hypocrisie de la Ligue arabe. Je savais que Bill avait raison. En dehors de Washington, peu de monde approuvait ce qui nous était demandé, et si nous intervenions, il suffirait d'un accroc pour que mes problèmes politiques deviennent pires que jamais. Je savais enfin que, à moins que nous prenions les choses en main, le plan européen avait de grandes chances de ne rien donner. Les troupes de Kadhafi allaient assiéger Benghazi. Dans le meilleur des cas, il s'en suivrait un conflit prolongé, voire une guerre civile généralisée. Dans le pire, des dizaines de milliers de personnes, peut-être plus, seraient affamées, torturées ou abattues d'une balle dans le crâne. Et à cet instant précis, j'étais peut-être la seule personne au monde à pouvoir l'empêcher. Le dîner s'est achevé. J'ai dit à Michel que j'en avais pour une heure et je suis retourné à la salle de crise où l'équipe avait examiné toutes les possibilités et attendait mes instructions. « Je crois que j'ai un plan qui peut marcher », ai-je annoncé à la cantonade.